Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Terminal qui débarque ce soir sur Canal+, nouvelle création originale Canal, avec Mohamed Hamidi qui est aux manettes de cette nouvelle série. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, t'es un habitué de l'émission et là c'est avec un grand plaisir pour la première fois. Eh bien, c'est pour une série que tu viens, c'est pas pour un film cinéma. Et une série qui s'appelle Terminal, où je crois qu'on va beaucoup rire. Hein.
C'est vrai, c'est une série de sitcom hein, à l'ancienne avec les codes publics en studio avec des séquences courtes et avec beaucoup de punchlines et beaucoup de vannes. Ça a été écrit par une équipe d'auteurs et avec lesquels on a retravaillé ensuite avec Jamel Debbouze, parce qu'en fait je co-réalise la série avec Jamel Debbouze. Et au casting on a des gens comme Ramzi Bedia, comme Camille Chamou, comme Tristan Lopin, comme Brahim Boulel et beaucoup d'invités aussi. Et donc c'est la création originale qui nous a... Ça fait quelques années que Jamel avait envie de revenir à la sitcom depuis H, hein, ça faisait 22 ans je crois. Et ça a été très, voilà, c'est un parcours très intéressant, assez beaucoup de doutes en se disant est-ce qu'on va réussir à monter ce truc et tout. Et finalement, ça a été un vrai plaisir, une vraie joie. Pour moi qui fais du cinéma mais aussi de la scène, parce que je fais aussi de la mise en scène, c'est pile entre les deux quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'exigence de l'image et du cinéma, mais il y a aussi la jouissance de jouer devant un public et d'avoir des réactions immédiates quoi. Donc ça c'est vraiment super.
Et la rapidité aussi, parce que c'est pas le même rythme qu'au cinéma, même si à la télé, Canal+, c'est peut-être la chaîne qui laisse peut-être le plus de temps aujourd'hui, mais malgré tout, en jour de tournage, c'est toujours plus rapide qu'au cinéma.
Bien sûr, là on a tourné quasiment 12 épisodes de 26 minutes en 35 jours, donc ça équivaut à 4 films. Et du coup, ça nous a effectivement obligé de prendre un rythme assez rapide. Et ce qui oblige aussi à aller vite, c'est la présence du public. Parce que le public, même si le public vient pour assister à un tournage et il vient pas assister à une pièce de théâtre ou à un show, hein, mais malgré tout, voilà, quand on a le public en face de soi, ben on a envie d'être plus efficace. Donc on fait 2-3 prises maximum, 4 prises, parce que on veut pas les user non plus. C'est vrai qu'on tournait, en gros, notre rythme, c'était une journée de lecture, répétition, et 2 jours de tournage pour un épisode.
Alors ça se fait plus, un tournage d'une série en public, où le public peut assister carrément, et devient un peu aussi membre à part entière, aussi, avec les rires, avec tout ce que ça comporte à côté.
Ah non, mais le public, c'est vraiment, vous verrez dans la série, tous les rires sont des vrais rires qui ont été captés pendant l'enregistrement de la série. Ça change complètement la manière de jouer des comédiens. Ça change complètement la manière de réaliser aussi pour nous, parce que forcément, on est sur des décors, hein, sur du studio, donc on est, le public n'est pas présent à l'image, mais on l'entend. Et le public donne l'action. Par exemple, Seth Jamel tenait beaucoup à ce que sur chaque séquence, ce soit le public qui fasse 3, 2, 1, action. Donc ça, pour les comédiens, c'est hyper grisant. Et puis, effectivement, on fait une prise, et puis après, on dit au public, alors, voilà, on va changer des choses. On a vu que cette vanne, elle passait pas trop, donc on était avec les auteurs, on réécrivait sur place. En fonction de la réaction des gens, les auteurs, les comédiens avaient toujours envie, en plus c'est des comédiens qui aiment beaucoup improviser, comme Ramzi, comme Camille Chamou, Brahim Boulel, Tristan Lopin, puis des invités comme Kad, et on a quand même Kad Merad, on a quand même Manu Payet,
Camille Cotin,
Horatica, enfin, des gens qui ont vraiment apprécié d'être en public. Ça change vraiment, c'est entre le théâtre et le cinéma, donc franchement c'est un vrai bonheur à tourner.
Ça raconte quoi en quelques mots, le début?
Alors Terminal, en fait, c'est une compagnie low cost, un peu de pieds nickelés, mais hyper attachante. Le commandant de bord, c'est Ramzi.
Ça donne le ton.
Le commandant de bord, c'est Ramzi. Sa copilote, c'est Bérangère MacNeice. Et en gros, c'est une compagnie qui s'appelle Fly Wings, qui est un peu la compagnie un peu mise de côté. Mais à chaque fois qu'il y a des vols, il se passe toujours des trucs incroyables. Ils ont perdu un boulon, donc ils peuvent pas décoller. Ou alors, sur un autre épisode, il y a une inspection. Et c'est pile le jour où Ramzi a filé son costume de pilote à un des PNC pour lui faire plaisir. Donc le PNC se retrouve dans la cabine de pilotage. L'inspecteur en question est joué par Kad Merad. C'est aussi un moment, le fils du patron qui vient faire un vol et qui s'enferme dans le cockpit et qui prend les commandes de l'avion. C'est complètement loufoque. On a gardé vraiment l'état d'esprit de l'absurde. Hein. C'est une famille d'aviation, on va dire, à laquelle on s'attache beaucoup. C'est un plaisir toujours de créer des personnages et de les voir vivre dans le temps, parce que la série, ce qui est intéressant, c'est la durée dans le temps. Ce sera diffusé par 2 épisodes, donc ça fait 6 soirées.
Ah ouais, donc c'est parti pour un mois et demi.
Ouais, un mois et demi de diffusion, et sans parler de la saison 2.
C'était tourné où? En studio?
Ça a été tourné en studio à Tigery, dans un studio qui s'appelle Black Matters, qui est à une vingtaine de kilomètres de Paris.
quand on tourne en studio comme ça, ça permet peut-être de gagner du temps aussi, quand on a tous les décors au même endroit comme ça.
C'est un autre travail, c'est-à-dire qu'effectivement, on va toujours au même endroit. On tourne qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, donc ça c'est génial, surtout qu'on a tourné au mois de novembre et que c'était pas très, que le climat était pas génial. Non, ça a de grands avantages, c'est qu'effectivement, on maîtrise tout en studio. Par contre, effectivement, en studio, il y a un effort de mise en scène supplémentaire à faire parce qu'on n'est pas, moi j'aime bien tourner mes films en décor naturel, très souvent je tourne en décor naturel. Et en studio, il faut recréer la vie, donc ça demande une attention particulière dans la mise en scène.
La comédie, on dit que c'est ce qui est le plus pointu. Malgré tout, sur un tournage comme celui-là, est-ce que on se laisse aller à des moments de fou rire quand on les voit jouer? Parce que j'imagine quand toi t'es derrière justement la caméra et que tu vois des Ramzi Bedia, des Cadmera, avoir l'œil qui frise comme ça, c'est des comédiens hyper instinctifs en plus. Est-ce qu'on arrive à se retenir un peu?
Quand on a monté la série, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de ce qu'on pourrait appeler du making-of ou du bêtisier, parce qu'effectivement, devant le public, alors, par contre, on avait une règle, nous, c'est que, on allait toujours au bout des scènes. Comme on n'avait pas le temps, il fallait impérativement que quand une séquence démarrait, que ce soit une séquence de 2, 3 ou 4 minutes, on allait jusqu'au bout. Donc, quand les mecs se marraient ou les filles se marraient, on leur disait, on veut pas le savoir, vous reprenez votre phrase et on continue, rendez-vous à la fin de la séquence, quoi. Et, bien sûr, ils sont très tentés d'improviser, très tentés de surprendre le public, de nous surprendre nous, de surprendre leurs partenaires. Très souvent, ils disaient, attends, je vais lui en faire une, tu vas voir. Ou moi, parfois, avec Jamel, on trouvait des vannes et puis on disait, tiens, Brahim, tu vas balancer ça à Ramzi, mais ne lui dis pas, on va voir comment il va réagir. Donc, tu lui sors cet objet, donc, on se faisait des petites surprises comme ça, parce qu'au bout de 2-3 prises, voilà, on veut continuer à surprendre le public et à surprendre les comédiens. Donc, bien sûr, on a eu des grands fous rires. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça se ressent aujourd'hui quand on voit la série. Et d'ailleurs, ces petits bêtisiers là, où on voit l'énergie qu'il y avait sur le tournage sont hyper intéressants à regarder. Il y a un making of de la série aussi, on peut voir sur Canal, où on voit vraiment dans quelle ambiance ça a été fait.
Et ben, en tout cas, moi, j'ai déjà hâte de découvrir Terminal. Ça débarque ce soir, les deux premiers épisodes sur Canal+, nouvelle création originale réalisée par Jamel Debbouze et Mohamed Hamidi. Merci Mohamed, en tout cas, d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Merci à toi, à très vite.
Et bonjour à tous, c'est Jack, votre commandant de bord.
Quelle est votre position et comment vous?
Ma position est assise, je répète, position assise.
Je suis habillé classe pour la business class.
On dirait Khaled carrément. Je sniffe de l'eau écarlate pour être aussi con, quoi.
Moi, je suis né dans les favelas. Je suis un mec de la street à la base. Excusez-moi.
T'es tranquille de me couper la parole? T'as pas remarqué que j'étais en train de développer une pensée?
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Disparition inquiétante, produit par notre ami Stéphane Strano, qui est également le président du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, avec un nouvel opus intitulé Peur sur le campus. Et on va y retrouver un nouveau duo à la tête, justement, de ce Disparition inquiétante, incarné par Claudia Tagbo et Bruno Solo, qui est avec nous, qui est notre invité. Bonjour mon cher Bruno.
Salut Alain, comment vas-tu?
Eh bien ça va très bien, je suis très heureux de t'avoir pour ce nouveau numéro de Disparition inquiétante où tu vas jouer le rôle de Patrice Manzetti. Et c'est une incursion au cœur d'un campus qui va voir la disparition inquiétante de l'une de ses étudiantes. Et c'est dans les méandres de ce campus que tu vas devoir enquêter avec Claudia Tagbo.
Dans les sous-bassements et les souterrains d'un campus universitaire dans lequel une jeune fille a été enlevée, visiblement, en tout cas il y a un mystère, dès les premières images, elle est assommée, et on se demande si c'est une tentative d'assassinat, d'enlèvement, de kidnapping. On a peu de temps, comme toujours, dans la collection Disparition inquiétante,
tout à fait,
initiée par Sarah Forestier au départ, puis je crois qu'il y a eu Julie Gaillet, Julie Dotardieu, Alix Poisson, qui en ont fait une.
Ben
et
oui.
Bon, voilà, c'est au tour de Claudia, que j'accompagne avec beaucoup de plaisir. Et donc, effectivement, on a peu de temps pour retrouver, c'est une sorte de course contre la montre pour retrouver quelqu'une ou quelqu'un, en l'occurrence quelqu'une, l'extraordinaire Pénélope Rose, qui est enfermée dans les souterrains de l'université. Elle est là, si loin, si proche de nous, et nous, on ne s'en rend pas compte, et donc on fouille un petit peu partout pour pouvoir enfin là. Donc voilà, c'est une sorte de course contre la montre, avec deux personnages, une fille très déterminée, jouée par Claudia Tagbo, qui sort un peu de ses rôles de comédie, même si on sait qu'elle a le talent pour faire tellement d'autres choses, et un flic qui paraît un peu désinvolte, qui est un vrai bon flic, qui connaît bien son métier, mais peut-être un peu détaché, obsédé de ce jour-là par l'idée de prendre ses RTT, qui aimerait bien que l'enquête soit confiée à quelqu'un d'autre, mais voilà, il n'a pas le choix. Claudia Tagbo, qui vient d'arriver dans la ville, ne veut lui et que lui, même si elle ne s'entend pas particulièrement à lui, elle sent qu'il a un bon instinct et elle se dit que il vaut mieux enquêter avec lui. Et ce type est visiblement un peu étrange, cache peut-être des secrets qu'on découvrira au fur et à mesure
évidemment.
Du feuilleton. Du film, pardon.
Il faut dire que les étudiants aussi vont être quand même assez hostiles hein, à ces flics qui arrivent et on va dire vont pas leur faciliter la tâche à Julie et à Patrice. Hein.
Oui, parce que tout au début est précisé par le personnage joué par Julien Boisselier et sa compagne jouée par Natalia Donchevac. Il y a une sorte de loi très ancienne qui est vraie, hein, qui est inspirée d'une loi universitaire, de celle du campus, qui interdit à la police d'être présente sur le campus de l'université, comme s'il y avait une sorte d'autogestion des problèmes et que les flics n'avaient pas le droit d'entrer sur le campus. C'est le cas dans pas mal d'universités en France. Bon, après, sauf en cas, évidemment, de plan Vigipérate ou de choses exceptionnelles. Donc voilà, ils sont assez hostiles à l'idée. Et on va deviner aussi pourquoi certains d'entre eux sont assez hostiles à l'idée qu'une enquête se fasse sur le campus.
Ouais.
C'est la course contre la montre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'enquête avance, la désinvolture apparente des personnages, en tout cas du mien, laisse place à une inquiétude sincère et le sentiment, effectivement, que la personne enlevée risque sa vie et que, passé ce petit moment de panique où on se dit « bon, ben, on va la retrouver, tout ça n'est qu'une petite blague potache entre étudiants », on se rend compte que l'affaire est de plus en plus sérieuse. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt malin dans l'écriture, c'est qu'il y a une prise de conscience des personnages que maintenant on ne joue plus. On n'est plus justement dans une blague, on est dans une vraie affaire criminelle qui pourrait très mal tourner. Et puis, je vous avouerai que j'étais très heureux de retourner avec Sylvie que j'avais rencontré il y a des années sur Cassandre, avec qui on s'était très bien entendu, et puis de rencontrer Claudia, et puis retrouver aussi Natalia Dolcheva et Julien Boisselier. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que j'avais envie de participer à cette aventure. Et puis, on a vraiment tourné dans un campus, beaucoup de nuits. C'est des tournages un peu particuliers, des tournages nocturnes. Et donc voilà, il y avait toute une ambiance comme ça, une atmosphère que j'avais envie de vivre, voilà, avec mes camarades.
Tes projets, Bono, pour les mois à venir.
Un autre film, j'ai participé à une série récurrente avec Stéphane Bern qui s'appelle Bellefond, dans lequel je joue son complice, son meilleur ami qui va devenir son pire ennemi dans le temps d'un épisode.
Ouais. Toujours réalisé par les deux sœurs, Émilie et Sarah Barbeau.
Tous les jeux, exactement.
Très bien.
Là, je m'en vais tourner un César Wagner avec ma copine Olivia Cohn. Après, j'ai d'autres projets, la saison 8 de La Guerre des Trônes. Et puis, à la rentrée, pas mal de projets, dont deux dont je ne peux pas parler pour l'instant, parce que c'est en négociation. Et puis, surtout, l'espérance de reprendre le théâtre dès janvier 2025. Donc voilà. Donc j'ai un carnet de balles qui est relativement chargé. Ah oui, et puis un très beau film que nous viendrons sans aucun doute présenter à La Rochelle, qui est un film avec Cécile Bois, Marc Citi, Odile Villemin, Christophe Lobion et Ma Pomme, qui s'appelle Signalement, et c'est une histoire tragique sur un signalement de maltraitance sur une enfant, et réalisé par l'immense Éric Métayer, tiré d'un livre qui s'appelle « Signalement » dont j'avais moi-même fait la préface il y a quelques années sur des sujets qui me touchent et sur lesquels je suis engagé depuis plus de 25 ans avec La Voix de l'Enfant. Voilà.
Et donc
c'est un film que j'ai tourné il y a quelques temps.
On a hâte de découvrir tout ce beau programme. En attendant, on te retrouve mercredi aux côtés de Julien Boisselier, Natalia Doncheva, Pénélope Rose Lévesque et puis Rebecca Finet. Il y a plein de beau monde en tout cas autour de toi. Et puis Claudia Tagbo, évidemment, que pour ceux qui ont la chance d'avoir peut-être encore karaoké dans les salles près de chez vous, n'hésitez pas à aller le voir. Ça vient tout juste de sortir au cinéma il y a 2-3 semaines. Donc profitez-en. Voilà, si vous n'y avez pas été, Claudia y est absolument magistrale. Voilà. Merci beaucoup, Bruno.
Merci Alain, à très bientôt.
Et à très vite.
Inédit, mercredi prochain.
Après vous, commissaire.
Le campus n'est pas à la police.
C'est qui ces clowns ?
Ce ne sont pas des clowns, ce sont nos étudiants. J'ai autorisé votre présence sur le campus et en principe, la police n'a pas le droit d'y entrer.
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Une jeune fille a disparu, on est là pour la retrouver. Ça fait plus de 24 heures qu'elle a disparu. Ça sent pas bon du tout.
Avec Bruno Solo et Claudia Tagbo, disparition inquiétante. Mercredi prochain, 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Pékin Express qui fait son grand retour après 3 semaines d'absence. Eh bien, jeudi, vous allez pouvoir enfin suivre la demi-finale entre les collègues corses, entre les petits Suisses et puis également le coiffeur avec sa cliente. Et puis, ben, vous avez vu, hein, peut-être dans l'épisode, il y a 3 semaines, c'était le départ de Riyad et de Louison. Et Louison est avec nous pour revenir justement sur son aventure. Bonjour, mon cher Louison.
Bonjour.
Mais quelle aventure de dingue tu as vécu.
C'était incroyable, c'était inimaginable en fait, ce qu'on a vécu au bout du monde avec Riyad, et ouais, ce sera à jamais gravé dans nos esprits.
On s'est dit, la première chose qu'on s'est dit, mais Louison doit être une patte, mais extrêmement, mais bien faite pour supporter Riyad, mais comment tu as fait?
Ben, en fait, ça s'est fait naturellement, on pouvait se détester autant qu'on pouvait s'aimer, on a passé des tellement bonnes soirées que, ben naturellement... On arrivait à passer au-dessus l'un et l'autre quand on était en désaccord. Et le cadre fait que on est quand même à Pékin Express. On n'est pas là pour abandonner ou pour se prendre le chignon. On est quand même là pour passer un bon moment. Donc, on arrivait facilement à mettre de l'eau dans le vin.
Et puis, tenter de gagner quand même.
Et tenter de gagner. Même si c'était... On n'était pas les favoris au début, je pense.
Non, mais attends, faut dire que... Alors, surtout toi, là, pour le coup, vous avez été vernis concernant les duos finales, hein, vraiment les confrontations. Puisque toi, je sais pas combien t'en as fait, mais je crois que sur les 3-4 premières étapes, tu les as toutes faites.
Hein. Ah bah oui, les 4 premières étapes, on a fini au duel final. Et en tout, on a fait 6 sur 8 épisodes. Je plains celui qui réussira à battre son record, parce que vraiment, c'est le truc qu'il lui fait tous.
Alors pour ceux qui ont raté le dernier épisode, vous êtes incliné face aux collègues corses. Malgré tout, aujourd'hui, quel est le binôme dont vous avez été le plus proche durant cette aventure?
Bah, les Corses.
C'était dur, ce duel final, hein, quand même.
Ah ben, moi, je voulais être en finale contre les Corses parce que je les trouve admirables et j'aime leur énergie, j'aime comment ils voient la vie.
C'était ta finale à toi, en fait, là.
Ben, c'était ma finale prématurée, c'est ça. Bon, j'aurais préféré la gagner, cette finale, mais... Mais ouais, les Corses, vraiment, c'est deux femmes extraordinaires. Et je les aime de tout mon cœur.
C'était quoi, on va dire, ton épreuve la plus difficile? Celle que tu t'es dû à l'issue, plus jamais?
Ah, bah, je pense que c'est... Alors, la plus dure, ça reste le trek, le volcan, quand on a dû gravir le Kawaijen.
Mais c'est que... Manquer d'oxygène, là, en plus. Hein.
Oui. Alors, en plus, il y a le soufre, il y a la fatigue. Mais je le referai. C'est la nourriture, par contre, si je pouvais éviter de le refaire, c'est avec grand plaisir.
Ouais, c'était pas très bon. Alors, quel est le pays gustativement le mieux entre la Malaisie, l'Indonésie, alors le Vietnam, pour le peu que vous en avez vu, mais en tout cas, c'est lequel le meilleur des trois?
Ah ben, je pense que c'est le Vietnam.
Enfin, on mange mieux.
Ouais. Alors, en Indonésie, c'est très bon aussi. Non, les trois en fait. Mais c'est beaucoup plus pimenté en Indonésie que dans les autres pays. Mais ouais, c'est différent. Mais l'Indonésie, le Nasi Goreng, en fait. On en a tellement mangé que je pense que il y a un petit surplus de riz là. Mais par contre, c'était très très bon. Et le Vietnam, c'était une découverte. Hein. Pour le coup, je sais même plus les noms de ce qu'on a mangé, mais c'était délicieux.
À quel moment il y a eu ce déclic qui t'est dit, je vais faire Pékin Express tout seul, comme ça, en inconnu, et puis on verra bien avec qui je tombe.
Ben je sais pas. C'est une émission que je regardais déjà depuis que j'étais tout petit. Donc déjà, il y avait quand j'étais plus jeune, il y avait cette envie où je sais qu'avec ma cousine, on en parlait, on disait qu'on voulait le faire, mais c'était un rêve en fait. Ça, c'était inatteignable. Et en fait, ben c'est un soir, mais sur un coup de tête. C'est vraiment un énorme coup de tête où je me suis dit pourquoi pas. On verra bien. De toute façon, tu perds rien. Et quand tu t'inscris, à aucun moment tu penses que tu peux le faire. C'est voilà, tu lances une bouteille à la mer sans espérer quoi que ce soit. Et le premier appel où on te dit t'es sélectionné pour la première phase de casting, cet appel-là, tu te dis, ah oui, en fait, c'est possible. C'est encore très lointain, mais c'est possible. Et là, tu commences à y croire. T'es pris dans la machine, dans l'engouement, et tu te dis, en fait, mais si, c'est pas si difficile que ça. Alors, bon, c'est possible, quoi.
Alors, tu nous as dit le binôme dans lequel tu étais le plus proche, mais alors maintenant, allez, tu vas un peu te lâcher, puisque maintenant il y a quelques mois, quel est celui qui t'a insupporté le plus?
Oh, il y en a aucun qui m'ont insupporté. Je me suis vraiment bien entendu avec tout le monde. Bah, en fait, ceux que j'ai jamais vus, c'est les frères, parce que vu que j'ai pris l'avion pas au même moment que les autres candidats, moi j'avais vu personne avant le début du tournage. Donc pour pas que je rencontre Riyad. Donc c'est vrai que les frères. Bah en fait l'aventure a commencé, je savais pas qui c'était. Et le lendemain on me dit ils ont abandonné, mais je sais toujours pas qui c'était. J'ai vraiment vu leur visage et appris à les connaître à travers ma télé comme tous les autres téléspectateurs.
Et ceux que tu as vu partir, et tu t'es dit, là c'est vraiment pas juste.
Alors, directement je pense à Jérôme et Emma, ouais. Mais je pense que les sœurs, Inès et Lola, auraient pu aller beaucoup plus loin. Je pense que c'était de la malchance le fait que, bah voilà, c'était notre premier jour à tout le monde. Elles auraient pu aller beaucoup plus loin. J'ai trouvé ça un peu injuste qu'elles partent si tôt. Mais après, par rapport à leur parcours, Jérôme et Emma auraient aussi pu gagner Pékin Express et aller jusqu'en finale parce qu'ils avaient les moyens, en tout cas, de le faire.
Ah ouais, c'est vraiment une aventure qui peut basculer du jour au lendemain ou que le moindre coup de mou ne pardonne pas. Et on l'a vu pour eux et vraiment, voilà, on a souffert pour eux deux parce que voilà, c'était pas mérité. Et c'est vrai que voilà, c'est une aventure hors du commun que vous vivez tous. Louison, dernière question. Si on doit te rappeler pour refaire l'aventure pour une version All-Star ou pour une version revoir les binômes qui ont marqué le plus l'aventure Pékin Express, est-ce que tu y retournes et quels seraient les pays que t'aimerais le plus peut-être visiter dans l'aventure?
Ah bah, mon sac à dos est déjà prêt. Okay.
Ah ouais, d'accord, carrément.
Mais oui, si on m'appelle, je repars directement. C'était tellement incroyable. Après, les pays... au tout début, moi, les pays qui m'attirent le plus, c'est l'Amérique du Sud. Mais j'étais persuadé qu'on n'y allait pas cette année parce que ils avaient fait ça l'année dernière. Mais donc, si là, on me repropose et que c'est en Amérique du Sud, je serais hyper content.
Voilà, le message est passé. Merci en tout cas, Louison, d'avoir été avec nous, Pékin Express. On rappelle que c'est la demi-finale, c'est jeudi à 21h10 sur M6. Les collègues corses, les petits suisses, et puis le coiffeur et sa cliente vont tenter en tout cas le tout pour se qualifier pour cette finale qui sera en trois parties, je crois, cette demi-finale. Déjà, il y aura trois épreuves. Sur les trois enveloppes noires, il y en aura une seule qui sera éliminatoire. Et ça, eh bien, ça va être compliqué, mais on leur espère tous, évidemment. Bonne chance, voilà, pour tous ces binômes encore en lice. Merci, Louison.
Ben merci, allez les Corses.
Vous êtes demi-finaliste de la 18e saison de Pékin Express. Ce sera beau, mais ce sera pas facile.
Ah, purée. Ça va aller? Tu veux faire quoi?
Votre objectif, maintenant, c'est la finale. C'est clair, c'est simple. Ça peut pas être autrement.
De partout.
La demi-finale, c'est un sacré morceau.
Darn, on perd tout le riz. Attends, là, je bouche avec mes tototes.
Ça va être très très long.
C'est pas une course, c'est trois courses.
On essaye d'aller lentement, ça va pas. On essaye d'aller vite, ça va pas.
Je suis en route vers la finale, bébé.
On est bien, hein. Et en plus, on bronze nos jambes.
À chaque fois qu'un binôme remporte une course, une amulette.
Yes.
Vous l'avez compris, en demi-finale, pour être tranquille, on est premier.
Double, double, plouf, plouf, plouf.
On est deuxième.
Ça peut se jouer à rien.
Mais on n'est jamais dernier.
En route vers la finale.
Et dans un instant, notre spécial frère pour terminer cette émission avec Olivier Casas et Michel de Robert, un grand moment en perspective. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite.